completely not what we're doing. We're listening to it in its perfectly correct position, and sort of celebrating that diversity of richness, that the result of that process of all these living forms exploring acoustic.
This is Doug Gillard of Guided by Voices, and you're listening to 90.7 FM, WGXC, Accra.
You're listening to Zach Poff's Pond Station, available at wavefarm.org/listen. If you click on the listen button on any WGXC.org page, you can hear the sounds from the bottom of one of the wave farm ponds, thanks to the hydrophones Zach Poff has put there. The radio artist is surveilling the underwater sounds in Greene County, and you can go to wavefarm.org/listen and click on any WGXC.org page and click on the listen button to listen to transmissions from inside a wave farm pond from morning until sundown from Zach Poff's pond station.
This is the Campbell Hudson Radio Group. We are excited to be a part of the WGXC radio family. It's fun, entertaining, we enjoy interviewing guests, and we like being around Tom Rowe showing us the ropes. Most of the voices you hear on WGXC began as novices, with nothing more than a desire to share music or ideas with listeners. As a result of listener support, WGXC is now a framework by which volunteer programmers become radio makers, and local community continues to grow in knowledge of itself. Quote, while programs give freely of their time to make radio listeners supported, radio is not free. It costs $10,000 every month to keep WGXC on the air. Please pledge what you can to keep the airwaves alive with the voices of your neighbors and friends in Columbia and Greene counties. To pledge, go to WGXC.org.
Survive All, one of the nation's leading manufacturers of fallout shelters, now combines sturdy steel with durable concrete block for
a civil defense approved basement type do-it-yourself fallout shelter.
Ensure protection for your family. See a Survive All shelter today.
WGXC is made possible in part by the generous ongoing support of Justin of Catskill, New York. WGXC's sustaining supporters are among the station's most dedicated listeners. They care deeply about creative community radio, and their investment helps to sustain WGXC as a public platform for information, experimentation, and engagement in Greene and Columbia counties. You too can become a sustaining supporter by going to wgxc.org/donate and designating an amount of your choosing. Thank you for your support.
You have the already global networks. So my argument is very simple. The present media is too large and wasteful. From now on, we should think about the smaller media to diverse our culture and community. I have different idea on airwave. Airwave belong to the every people, everybody, not to the states or a government. Okay, I will make the transmitter now.
New York Governor Kathy Hochul has signed new congressional maps into law. This comes a few days after Democrats in the legislature rejected maps drawn by the state's Independent Redistricting Commission. Lawmakers felt the IRC's maps were too similar to 2022 maps, which heavily favored Republicans. Rejecting those maps sent the state back to square one after the New York Supreme Court ordered the new maps be drawn last year. But Jeffrey M. Weiss, senior fellow at New York Law School's Census and Redistricting Institute, says the state's redistricting process was designed to fail.
It was based on a constitutional amendment approved by the voters in 2014 that was poorly conceived. It had faulty wording and left lots of loose ends.
He adds the amendment was specifically designed to retain the then-Republican majority in the state Senate. Approval of the most recent maps ends New York's redistricting debate, at least for now. But Weiss thinks now is the time for lawmakers to work on making the redistricting process more transparent, with more public input and perhaps a new amendment to the state constitution. Voting rights advocates were equally concerned about the IRC's maps. Some worried they'd create districts where majority white communities could overrule the needs of minority voters. Rosemary Rivera with Citizen Action of New York says it would have taken power away from those who need it most.
People who are low income, people of color, who have a hard time accessing power to begin with, and then you begin to dilute their voice and vote, it becomes a problem in terms of what we truly want, which is an inclusive and representative democracy.
While some are happy the new maps unify previously disconnected communities, others feel more could have been done. Some advocates say several districts across New York City are still splitting minority communities, leaving them without as much power to elect candidates they want. This is Edwin J. Vieira for New York News Connection. Find our trust indicators at publicnewsservice.org. Support for this reporting was provided by the Carnegie Corporation of New York.
And now, here is your WGXC Weekend Weather Report. The National Weather Service is forecasting a rainy Saturday, mainly after 7 a.m., with a temperature high near 44 degrees and a south wind at 5 to 10 miles an hour. Showers are likely tonight, mainly. Before 7 p.m., it will be cloudy with a temperature low of around 41 degrees and a light and variable wind becoming northwest at around 6 miles an hour. On Sunday, it will be partly sunny with a temperature high near 56 degrees and a north wind at 5 to 7 miles per hour. And on Sunday night, it will be mostly cloudy with a temperature low of around 44 degrees. And on Monday, it will be partly sunny with a temperature high near 61 degrees. And that is your weekend weather report from WGXC 90.7 FM radio for open ears in Greene and Columbia counties.
WGXC is made possible in part by the generous ongoing support of Nora E. Edelman of Athens, New York. Sustaining supporters are among the station's most dedicated listeners. They care deeply about Creative Community Radio, and their investment helps to sustain WGXC as a public platform for information, experimentation, and engagement in Greene and Columbia counties. You, too, can become a WGXC sustaining supporter by investing in community radio every month. Go to WGXC.org and click Donate. Thank you for your support.
WGXC believes in creative use of the airwaves. WGXC is a program division of the nonprofit arts organization Wave Farm, based in Acre, New York. We are the only station in the country to dedicate significant airtime to radio as an artistic medium. Tune in to transmission art and experimental sound programming overnight and on Saturdays, and hear artists from all over the world who sculpt and compose with the airwaves.
Rehearsing and nursing a part, we know every card by heart. Overture, curtain lights, this is it, we'll hit the heights, and oh what heights we'll hit. On with the show, this is it.
Nick?
Next, we tune in the latest episode of the I Have Seen Niagara radio theater show from G. Lucas Crane and Rick Royer. The show airs Saturday mornings on the WGXC morning show between 9 and 10 a.m. and every early Wednesday night just after midnight.
Let it be known that my nose bears a striking resemblance to a bowling shoe. Always has. So, it stands to reason that Mikey, the shoe counter guy at Vicasio's Lanes, was just confused when he unleashed a green cloud of shoe sterilizing aerosol right in my face. It was strangely sweet for a shoe sterilizer. At least that's what I remember thinking before I started flopping around like a pastrami. Did somebody say cheese fries? Vicasio's Lanes has the best cheese fries in town. They fill a hollowed out bowling ball with cheesy sauce. And Chef Tony puts fries through the finger holes, three at a time, until they overflow and poke out the holes like soggy, detached fingers. The sheen of the cheese dripping down a bowling ball has been known to send me into a bout of what a police report once called an agitated state, okay? This time was different, though. I made it through the whole bowling ball of cheese fries without my jaw locking up even once. I was on my way to beg Chef Tony for a free refill when Mikey confused my face for a bowling shoe again. I convulsed and foamed at the mouth until I passed out. Now, I'm here. Wherever here is. I'm all frozen stiff. I can't move a finger. I can't see a thing. But I can hear the sounds of bowling alley swirling around me. I used to love bowling, especially at Vicasio's. But now, these sounds haunt me. I'd rather not be here right now. I have no choice. I used to be the queen of Vicasio's Lanes. They called me Knock 'em Down Deanna. Because I would knock down pins, bowling pins. Maybe it was on account of my bowling shoe shaped nose, but I was born to bowl. I started bowling at 5 months. I was what they call a bowl baby. The only place my fingers felt at home was knuckle deep in a ball. I bowled my way to the cover of Bowling Babes magazine. It was featured in a local Perkins commercial. And I was always never was none not to know a soggy mattress when I saw one. Tragedy struck. I was a shoo-in to win the city championship. But I got cocky. In my last game, I attempted to use a bowling ball. Folks around these parts call Bocephus. The most eldritch bowling ball in all the known universe. Made out of a material found nowhere else on planet Earth. It was a bowling ball of infinite mass and energy. A black hole that sucked up any bowler brave enough to try heaving it. Bowling scholars believe that this was not a ball you choose to throw. It chooses you. Many women and men died during that particular tournament. Their corpses sucked into the ball and all smushed up by the ball's gravity into points of infinitely small nothingnesses. But I wasn't scared. I was at the height of my game, a destroyer of pins, a master of balls. So, I stepped up to Bacephus, and my fingers effortlessly slid in. A perfect fit. The bowling ball appreciated my fingers, I could tell. Weightless, I curled the ball up to my chest as I approached the lane, and then my fingers betrayed me. I heaved that bowling ball down the lane, and my three favorite digits went with it, torn off at the knuckles. That ball bounced like it was going over a speed bump each time it rolled over its precious finger cargo. But sure as can be, they guided that ball to the last strike I'd ever hit. The bowling ball obliterated the pins, tearing another hole in the very fabric of reality for old Niagara. After that, I was a fingerless freak. I couldn't bow for squat. So, I started getting heavy into the cheese fries. To support my habit, I became Deanna the Human Bowling Ball. And Focaccio Lanes was my circus. I showed up every Thursday to Sunday and hurled myself face first down lane 6 to ceremoniously kick off league night. The owner, Mr. Focaccio, would pay my $4 and a heaping tray of cheese fries. They wouldn't even waste a bowl on me. They would just put the fries right on the green plastic tray. No plasticware, no napkins, no shame. Between sucking down cheesy fries and knocking pins with my noggin, I lost all sense of time and space. I don't know how long I spent up in Focaccio's lanes. Wasn't until the day sweet dear Deb showed up and rescued me that my life changed for the better. A doctor showed up at the bowling lanes one night and said, if I didn't change my diet, I would die before sunrise. So, I went gluten-free for 3 days, which led me to lesbianism, and the lesbianism led me to Deb.
Me and my Bills going to that Super Bowl. Watch
out, I always knew I would make a great lesbian. I had the torque for it. That was 3 months ago, and until today, I've been clean. No bowling, no cheese, no fries. With Deb's embrace, I didn't need any of it. She fixed me right up. Deb made me feel complete again. Minus three fingers, of course. Then Deb disappeared, and everything unraveled. The last time I saw my sweet Deb, I was falling asleep beside her. We were nestled together in our women's waterbed, exhausted after a little bit of the old bearded handshake. I fell asleep like someone was really tired after that. And when I woke up, a shattered bowling ball sat where I last saw Deb's head. A pillow caked in coagulated cheesy sauce. The sauce trail traced the indentation her body left in the waterbed and snaked its way out of our bedroom. I followed that trail and it led me right through the door of Focaccio's lanes to Chef Tony at all lane 6.
Hey, Deanna, yoo-hoo. It's me, Chef Tony Pep from Ficazio's Lane. Time to wake up, Deanna. You are a no-good sleepyhead. Welcome to your new life. Okay, here's the thing, Deanna. Your greasy little fingers have got some kind of magic in them. Who knows how, but they do. Back in the day, after your fingers got all ripped out by that ball, that magical bowling ball, I found them gumming up the works in the pin setter. And long story short, while I was prying them out of the gears, my mouth, I guess you could say, my mouth accidentally made contact with your fingers. And I gotta say, I've never tasted nothing so good in my life. But your fingers, they got something special. So after I gave them a good sucking, the best sucking of their life, I taped them together and fashioned a nice little spoon. And I've been using your finger spoon to stir up our cheese sauce ever since. And thanks to your fingers, I am a god of cheese sauce. And now, I'm thinking of scaling this operation up, you see. We're going to get legit and we'll be stocking up store shelves coast to coast with what I'm calling Focaccio's Cheesy Sauce by Chef Tony Pep. We're going to be pumping out cheesy sauce by the barrel. So this here puny old finger spoon that I made, it ain't going to cut it no more. We need something bigger. So I had to get creative. While you was all knocked out, I stripped you down and I shellacked you. Put a nice little handle on you too. You're just about stiffened up now and ready for some action. Straight up, I turned a washed up former pro bowler into a giant wooden spoon fit for stirring up a humongous pot of cheese. Okay, now let's make up some cheese sauce, baby.
He just perceived the cheese that was right, turning and churning your unholy right. Gutter to gutter, the moon on the lane, mad yellow potion goes straight to the brain.
Let it be known that I now bear a striking resemblance to a 64-inch stirring spoon with a nose shaped like a bowling shoe. Strange when you think about it. That the special ingredient that got me so hooked on cheese fries was me all along. Stranger yet, that through low-level sorcery and carpentry, I was transformed into a wooden spoon used to stir up cheese sauce every night. But the strangest thing of all is that I'm pretty much okay with it. It's brought a new sense of purpose to my life. I'm the key ingredient in a highly addictive cheesy sauce that has become a cornerstone of the Niagara Falls diet. And who needs love when you got cheese fries? What's the special sauce in the special sauce? I'm the special sauce. I am special. I am sauce. And I just can't get enough.
Most radio shows don't come with a demonstration, but most radio shows aren't Radio Wonderland.
Greatest hits.
Right, so then I take more pieces of live radio, slice them, fit them into the groove, and then in a few minutes you get something like...
In LA, some restrictions apply.
It's radio made completely out of radio. I'm Joshua, but you just call me Radio Wonderland.
10:30 a.m. Saturday mornings till 11.
Some restrictions apply.
Qu'est-ce que c'est qu'une poupée? Qu'est-ce que c'est qu'une poupée? C'est quelque chose d'étrange. C'est quelque chose dans l'ombre. C'est quelque chose de la terre. C'est quelque chose de l'origine. C'est quelque chose de magique. C'est quelque chose de paternel, quelque chose d'interdit. C'est quelque chose de Dieu. C'est quelque chose de lointain. C'est quelque chose sans yeux. C'est quelque chose d'animal. C'est quelque chose d'oiseau. C'est quelque chose de silencieux. C'est quelque chose d'éternel. C'est quelque chose de boue. C'est quelque chose de caillou. Quelque chose de végétal. Quelque chose de l'enfance. Quelque chose de cruel. Quelque chose de joie. Quelque chose de cri. Quelque chose de muet. Voilà.
Aux poupées des garçons, c'est ça? Bon, je vais juste présenter ce que j'ai ressenti quand les Jojo sont arrivés à la maison. Puis après, Clément dira les choses qui le concernent. J'ai eu deux garçons. Et nous vivions quand même, il faut le dire, dans une maison très sauvage et un peu la maison de Blanche-Neige, entourée de parcs abandonnés et abandonniques à Meudon, parce que la maison dans laquelle que j'avais louée partait un peu dans tous les états. Et les enfants ont eu une enfance entre les jardins qui se côtoyaient dans les parcs. Et nous allions passer Noël en Provence chez ma mère qui avait une maison. Et un jour, je suis arrivée pour passer Noël et j'ai vu arriver les enfants qui serraient contre eux quelque chose d'immonde pour moi, premier coup d'œil, quelque chose de pas possible. C'était deux poupons qui se ressemblaient comme des frères. Et qui serrait avec une passion, c'est-à-dire que Clément, qui est là, se promenait toute la journée en étranglant à moitié ce poupon et ne le quittant pas. Antonin, son frère, pareil. Et c'est comme ça que les Jojo sont rentrés dans la famille. Ils s'appelaient Jojo déjà, tous les deux, pour moi. C'était les Jojo. Et c'était un peu comme des bébés. C'était des bébés qui se promenaient et on ne les quittait plus. Et quelques temps après, mais peut-être 6 mois après, un matin, je me suis réveillée et j'ai entendu parler les Jojo. Et c'était deux voix qui ressemblaient à personne. C'était pas les voix des enfants, c'était pas nos voix. C'était les Jojo qui parlaient ensemble. Et je me suis dit... Ah, tiens, c'est les Jojo.
Oui, c'est vrai qu'ils avaient leur propre voix, mais je crois déjà, pour corriger ce que tu as dit, que ça n'a jamais été des bébés. Jamais. Ils ont toujours eu l'âge qu'on avait. C'est-à-dire qu'on était peut-être des bébés, mais en fait, on a toujours été des enfants. Et paradoxalement, ils avaient notre âge et à la fois, ils étaient nos enfants adoptifs. Comme statut, disons, le statut vraiment qu'on leur avait donné, c'était clairement indiqué. Alors, je crois que c'est aussi, il me semble, mais j'ai une mémoire assez déficiente, que c'est, ils sont arrivés quand mon père est parti, à peu près, la même année, sans doute. Donc, ils ont vraiment fait partie de la nouvelle famille qui s'est reconstituée, des liens qui se sont reconstitués. D'une part, entre mon frère et moi, là, on était beaucoup plus proches, puisque bon, mon frère est mon grand frère, mais on a 2 ans de différence et il s'est beaucoup occupé de moi. Et on était beaucoup rapprochés, comme sans doute dans beaucoup de familles de divorcées, et avec ma mère, ma grand-mère, et puis ma marraine, enfin la marraine de mon frère, la marraine de la famille. Et donc ils ont pris un rôle tout de suite très très important. Et on était des enfants très très joueurs, toujours. Bon, comme ma mère a dit, on était près de parc, donc on jouait beaucoup dehors tout le temps avec nos voisins, etc. Et on avait beaucoup de jouets nous-mêmes, de jouets commerciaux. Et ceux-ci sont d'ailleurs, on les a eus dans un catalogue. Mais ils sont jamais rentrés dans cette catégorie de jouets. Et je crois qu'on n'a jamais joué au Jojo.
J'étais touchée aussi par quelque chose que vous avez dit tout à l'heure sur, au fond, les poupées qui traversent le temps, c'est celles avec lesquelles on a le moins joué. Et je pensais, quelque chose qui est très dur à exprimer, mais qui est un problème crucial pour une petite fille, c'est jusqu'où elle peut aller dans les modifications apportées à la poupée. C'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'on peut ajouter quelque chose sans la défigurer. Et je me souviens que très souvent d'expériences, pas très souvent, parce que je les aimais assez pour justement faire attention, mais il m'est arrivé de faire des expériences dans le genre redessiner les sourcils, ou bien marquer plus, remaquiller les yeux, ou repasser sur les lèvres. Et après, j'étais d'une tristesse incroyable parce que je n'arrivais pas à enlever ça. Et par contre, d'autres ornements, par exemple leur peindre les ongles, ou j'étais très maniaque des chaussures aussi, et changer les chaussures ou refaire la coiffure, ça, c'est dans le champ de notre liberté. Mais il y a des fois où on sent qu'on a gravement atteint l'identité de la poupée, et c'est une tristesse incroyable, parce que c'est un irréversible.
Souvent, ça m'arrive, puisqu'on fait clinique de poupée, de voir des personnes qui amènent encore leur propre poupée, c'est assez rare, hein. Bon, c'est évidemment des personnes âgées, et qui sont souvent blessées dans leur intime à cause justement d'une poupée partie chez le réparateur et revenue autre. Une poupée méconnaissable, une poupée qui n'était plus sa propre poupée. Évidemment, la partie qui est la plus délicate dans ce sens-là, c'est la tête. À la rigueur, une poupée dont le corps est abîmé ou je ne sais pas, je pense à une poupée qui aurait brûlé ou une poupée qui serait finie à l'eau et dont le papier mâché serait fini en loques. Enfin, quand le corps s'abîme, on peut encore le remplacer puisque le regard passe surtout à travers le visage, l'expression du visage. Mais une, par exemple, des choses qui reviennent le plus couramment, les gens n'osent plus, quand c'est une poupée d'enfance, ne la conçoivent pas autrement qu'avec la même perruque, c'est-à-dire la même couleur. Mmh. Que sa propre poupée, qui était blonde, devienne brune, c'est parfois inconcevable pour une ancienne enfant. Par contre, il y a le réflexe, alors complètement autre de la part des collectionneurs aujourd'hui, c'est-à-dire de restituer à la poupée, d'une part, son état d'origine, ce qui est compréhensible, mais d'autre part, en matière de perruque, en matière de vêtements, de rechercher le vêtement qui sied davantage à la poupée. Donc, si c'est une poupée avec un teint de peau très pâle, ils auront plutôt tendance à mettre des perruques blondes pour que ça soit plus plus agréable esthétiquement.
Mais ça, c'est dans tout, c'est du côté de ceux qui veulent du bien à leur poupée. Mais il y a aussi, dans le traitement de la poupée, énormément de pratiques, ou par éclat ou par crise, ou même peut-être par une sorte de constant projet de destruction qui vise à leur mort.
Oui. Pas plus tard que la semaine dernière, une dame me racontait que elle avait, et encore maintenant, elle le porte sur son dos. On lui a reproché toute sa vie, le jour où on lui a offert pour Noël une très belle poupée, la première chose qu'elle a faite, une fois seule avec sa poupée, ben, elle a décrété que c'était une poupée morte, elle l'a enterrée. Et elle n'a jamais revécu après, c'est-à-dire qu'elle a été déterrée, bien sûr, on a ressorti la poupée de dessous la terre et tout, et elle n'a jamais pu jouer avec, parce que c'était une poupée que, bien sûr, dans son imagination, elle avait décrété qu'elle était morte. Et elle dit, on m'a toujours reproché d'avoir tué ma poupée, et ma poupée, je l'ai toujours, mais c'est une poupée morte, donc c'est même encore maintenant, à l'âge adulte, elle a un rejet complet de cette poupée. D'autres enfants ont lieu, et ça c'est pas tellement une atteinte à l'intégrité de la poupée, mais un désir de curiosité, jouent en décortiquant la poupée pour découvrir ce qu'il y a dedans. Hein. C'est le premier souci d'un enfant, de comprendre ce qu'il y a dedans, donc qui ouvre les corps, qui détache les jambes, la tête, les yeux pour voir comment ça marche.
Alors c'est vrai que les Jojo, on a adopté le nom qui leur était attribué. Et au départ, ils s'appelaient tous les deux les Jojo. Et mon frère, avec le temps, quelques années plus tard, je pense parce qu'il était un peu plus âgé, a différencié le sien en l'appelant Molo. J'y trouvais ça très amusant. Mais par contre, jamais, et pas seulement par ignorance, par exemple, de ma mère, qui n'aurait pas su qu'il avait changé de nom, jamais on ne les aurait appelés Jojo et Molo. On les appelait toujours les Jojo. Et aujourd'hui, on les appelle les Jojo. Quand on les nomme tous les deux, on les nomme les Jojo. Et d'ailleurs, on les nomme on les nomme quasiment tout le temps ensemble. Et donc, ils ont gardé un nom commun, justement, parce que je pense qu'ils sont... Et on n'y a pas du tout pensé, bien sûr. Mais aujourd'hui, rétrospectivement, je pense que c'est vrai qu'ils sont assez indissociables. Et parfois, j'y pense encore à me dire... Comment fera-t-on quand on n'aura plus un foyer commun? Parce que c'est vrai que mon frère n'est plus là, mais on a encore ce foyer commun. Est-ce qu'on va prendre chacun nos Jojo? Mais ce serait trop triste. Ce serait quasiment impossible. Et ça me pose toujours un vrai problème.
Et il y a à peu près un an, je suis au 7e étage et j'ai très peur des étages. Et je disais, bon, s'il y avait un incendie, qu'est-ce que je ferais? Et Clément était... Antonin était là, son frère. Et je lui dis, Clément, Antonin, qu'est-ce que tu sauverais en premier s'il y avait un incendie? Et il m'a dit, les Jojo. Et ça m'a beaucoup, ça m'a quand même perturbée. J'ai fait une enquête pour savoir si c'était les Jojo avant nous, mais c'était les Jojo.
Les arrogantes. Toutes les poupées se prétendent descendantes de la grande poupée. Grotesques, bouffons, à pleurer. Il y a chez elles, même chez des nabottes immondes, une arrogance insupportable. Elles se croient que c'en est pas croyable. Je m'en suis tout de suite aperçue. Cela n'empêche pas que je sois toujours contente quand on m'offre une poupée. D'un bonheur sans restriction. Je sais que ce sera à moi, plus tard, de leur rebattre le caquet. Mais sur le moment, je suis ravie. Je me jette avec fougue dans les bras du donateur. Ma reconnaissance est sincère. Bien mieux, dans ces effusions, j'anticipe déjà l'obtention d'une future poupée. Thank you.
Ben, une fois au marché aux puces, comme j'y suis souvent, puis que je regarde souvent, comme je chine souvent quand j'ai le temps, je me souviens, c'était un après-midi, je regardais par terre, et puis il y avait un petit étalage d'un clochard. Il y avait une chaussure, une casserole, un parapluie tout pourri, et puis le type n'était pas là. Et puis qu'est-ce que je vois au milieu de tout ça? Une poupée, mais on m'avait souvent parlé de ces poupées un peu magiques, ou avec des épingles, des aiguilles, j'avais toujours entendu ces histoires-là, mais je n'en avais jamais trouvé. Et là, par bonheur, qu'est-ce que je vois? Une poupée avec des épingles, piquée d'épingles, attachée, ficelée, rasée, et en plus, par bonheur, c'était une Barbie. Moi qui avais horreur des Barbies, j'étais tout de suite réconcilié avec la Barbie en voyant cet objet. Je dis objet poupée. Et donc je me souviens, le type était au bistrot, puis j'attendais. Je dis, mais je pars pas d'ici tant que je n'ai pas cette poupée. Et en fin de compte, le type est sorti, au bout de au moins un quart d'heure, et je lui dis, je voudrais cette poupée, c'est combien? Puis il me dit, c'est 5 francs. Sans hésitation, je l'achète. Puis il me dit, c'est bizarre, hein? Il dit, c'est étrange. Je dis, oui, c'est étrange. Et en plus, il me l'enveloppe dans une feuille de papier journal. Et en rentrant chez moi, en défaisant le paquet, je me suis aperçu que le papier journal, c'était une feuille de l'Humanité, et il y avait une pendaison en plus comme image. Et ça, ça a été extraordinaire. Et en regardant cette poupée, en même temps, je me suis dit, est-ce que c'est un enfant, une femme ou un homme qui l'a faite? Et j'ai essayé d'en faire après. Mais j'ai jamais pu faire comme cette poupée. Elle est remplie d'épingles, de la tête aux pieds, dans les yeux, elle a des épingles dans la bouche, sauf le sexe n'est pas touché. Et elle est attachée avec un fil de couture noire, ficelée, les mains et les pieds. Et elle est rasée.
Avec les vraies poupées, les poupées offertes en cadeau, et la plupart du temps choisi, ou alors c'était des surprises. Là, il y avait d'autres jeux qui étaient beaucoup plus du côté du théâtre. Mais pas du côté... J'aimais pas les poupées pour jouer à la poupée. J'aimais pas les poupées pour jouer au papa, à la maman, et des choses comme ça. Mais il y en avait... Pendant longtemps, il y en a eu un essentiel qui était très inspiré par... des récits ou un bout de film que j'avais vu sur la cour de Versailles et qui était autour d'un roi à qui on prêtait des dessins très funestes et noirs mais sans vraiment savoir lesquels. Et en inversion de cette angoisse, ou alors pour dire les deux, on l'appelait Ombre Blanche. Et il était représenté par un abat-jour. Et autour de lui, qui formait sa cour ou son harem, il y avait nos poupées. Et donc c'était un jeu très, très complexe et très variable parce qu'il se jouait tous les soirs à peu près en rentrant de l'école. De qui s'approcherait de Ombre Blanche, qui aussi lui volerait son pouvoir, qui... Ça c'était très compliqué. Donc c'était un très long théâtre qui a duré des mois et des mois.
Elles viennent de tout ça. Elles viennent de très très loin. Elles viennent de... Elles viennent de ce qu'il y a de plus profond. Elles apparaissent. Elles sont une présence. Mais elles viennent de souvenirs de l'enfance. Première poupée. Le sexe de mon père, qui s'était blessé avec la fermeture éclair. Et il a dit... J'ai fait une poupée.
J'ai une petite mémoire, mais je me souviens très bien du jour où on les a choisis avec ma grand-mère et du jour où ils sont arrivés.
Et
vous les avez choisis ?
On les a choisis, oui, dans un catalogue, on les a vus.
De la Redoute.
Voilà. Et en effet, ils ne sont pas beaux du tout. C'est des espèces de poupons boxeurs. Ils avaient vraiment des grandes boxes, des petites blessures. Et ils peuvent mettre leurs doigts partout, dans les oreilles, dans le nez. Beaucoup de choses désagréables. Mais ils ont tout de suite pris un rôle très important. Et puis, une existence propre. Mais une existence propre, je crois que même si on était assez petit, on n'a pas cru en leur existence. Par contre, on savait que c'était nous, en partie. Et c'est vrai qu'il y a sans doute eu une forme de dissociation, mais moi, maintenant, je ne me souviens pas y avoir cru. Mais on ne jouait pas dans le sens où, par exemple, avec nos voisins avec qui on était très proches, on ne jouait jamais avec eux. C'était uniquement familial. Et par exemple, mon père, qui n'était pas dans cette reconstitution, les connaît, les a fréquentés, mais il les connaît pas. Il pourrait pas comprendre, il pourrait pas en parler ici. Parce qu'ils ont eu une vie, alors que ma mère, même si c'était quelque chose entre mon frère et moi, ma mère les connaît très bien, les a beaucoup fréquentés.
Je les ai beaucoup entendus. Parce que ce que tu oublies de dire, c'est qu'ils se sont mis à parler un jour et qu'ils ont parlé pendant des années avec leur voix, et c'était un discours continu.
Ah oui, je crois même que c'est assez important, parce qu'en fait, je crois qu'on a arrêté. Disons que les Jojo, ils sont toujours dans notre cœur, ils sont d'ailleurs toujours dans ma chambre, mais on a arrêté quand on n'a plus pu faire ces voix, qui étaient très, que je ne pourrais pas faire aujourd'hui, puisque c'était des voix graves faites par des enfants. Et donc, je ne sais pas, je ne me rends pas compte de l'effet que c'était, mais avant, c'était tout naturel pour moi de parler comme ça. Et ça s'est arrêté vraiment au début de l'adolescence, c'est-à-dire que maintenant, les derniers vêtements qu'ils ont, c'est avec des messages punk dessus, des choses, c'est-à-dire qu'ils ont fait un bout de chemin. Et ils ont développé, enfin on a développé toute une vie imaginaire pour eux. Et c'est vrai qu'ils avaient vraiment tout leur univers. Quand on rentrait le soir dans nos lits, parce qu'on était dans la même chambre, il leur arrivait beaucoup d'histoires ils avaient leur propre univers qui était d'ailleurs un univers souterrain, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais enfin bon, c'était comme ça et ils étaient et donc il y avait en effet des fois on parlait, parfois eux parlaient.
Elle est tombée comme d'elle-même. C'était l'été dernier. Je jouais dans ma chambre. Soudain, sans raison, j'ai laissé tomber la poupée antique, héritée de mon arrière-grand-mère. Anna, son teint nacré, sa robe de dentelle jaunie, ses anglaises en vrais cheveux. Anna, le comte de la porcelaine. Anna, l'indomptable.
Mais parfois, il y avait des conversations, parce que je les entendais parler, entre eux, les Jojo, le Jojo d'Antonin et le Jojo de Clément. Et je dois dire que pour moi, il dit que je n'y croyais pas, mais j'y croyais, j'étais bien obligée, puisqu'il fallait les habiller, mais c'était sérieux. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment leur faire un smoking, je me souviens, une fois pour Noël. Et c'était devenu, avec Hélène, la marraine, faire le smoking, ça nous ennuyait. À tous les jolis anniversaires et dîners où on avait mis une nappe, et ils étaient dans leur fauteuil, avec presque leur gueule cassée, et ils étaient là. Et puis, après, on s'est mis à les aimer, et... Quand Clément, là, c'est drôle, les Jojo, parce que je ne les voyais jamais bouger. Mais ils étaient toujours, à tous les deux, assis sur le canapé, dans l'escalier, par exemple. Ils les déplaçaient, ils les laissaient là, tous les deux. C'était des poupons d'intérieur. D'ailleurs, c'était des poupons intériorisés. Enfin, c'était des poupons. Ils étaient à l'intérieur, ils ne sortaient pas avec des petits copains. Je crois que vous n'auriez pas aimé les montrer.
Ah non, sûrement pas. Disons que peut-être qu'ils appartenaient plus au monde des adultes à qui on pouvait les présenter. Par exemple, aux bons amis de ma mère, on pouvait les présenter, ils pouvaient leur parler. mais pas du tout à nos amis avec qui on était pourtant très proches, mais c'était tout à fait différent. Et c'était vraiment surtout entre mon frère et moi que ça se passait. Et donc, non, c'était pas un jouet. Et d'ailleurs, moi, je crois ne pas aimer les poupées. Enfin, quand j'étais petit, je crois que j'aurais pas... C'est vrai que la poupée que ma mère avait dans sa chambre, ça m'était très désagréable, très agressif. Les poupées Barbie Maker et petit, toutes les poupées. Donc, je sais pas si c'est vraiment... c'était pas considéré non plus comme des poupées. Donc, je pense que les poupées sont rarement des jouets normaux. Mais là, c'était ni des jouets ni des poupées. Ils avaient quitté ces catégories. On les a reçus comme des poupons boxeurs. Alors, c'est vrai qu'ils avaient évidemment leur salle de boxe et qu'ils faisaient de la boxe. Mais c'est vite devenu tout autre chose, avec un monde très complexe, je crois, que d'enfants abandonnés, je crois. C'est-à-dire d'enfants sans parents ou parents adoptifs, comme nous, on était pour eux. Et donc, il y avait beaucoup de gens dans cela était imaginaire. On avait d'autres poupées, mais qui étaient vraiment subalternes, nous-mêmes consacrées au Jojo.
Je contemplais ses prunelles pailletées d'or et mes mains se sont ouvertes toutes seules. Elle est tombée comme la chose qu'elle était, avec un bruit mat, sans se débattre. Son nez s'est brisé sur le carrelage. Un petit bout de doigt a volé en éclats. Sous le choc, ses yeux se sont décrochés. J'ai ramassé les débris et je les ai rangés dans une boîte à chaussures.
Oh, ben ça, il y a une vie sociale très, très compliquée. Ils avaient leurs amis, ils avaient leurs ennemis mortels, et il leur arrivait de se battre, mais ils discutaient beaucoup. C'était, ils parlaient beaucoup de beaucoup de choses. Alors, parfois, c'était purement de leurs histoires, de leur univers. Et puis, je crois, mais ça peut-être que ma mère s'en souvient mieux que moi, que parfois on y faisait intervenir des éléments de notre vie à nous. Il parlait beaucoup de la famille.
Il parlait de nous. Par exemple, parfois, les Jojo se plaignaient de moi. Ils disaient, elle n'a rien mis dans le frigidaire, ou c'était le matin, ça, le dimanche. C'était toujours les Jojo qui se réveillaient en premier. Et moi, je me disais, les Jojo sont réveillés. Mais je me disais pas, les enfants sont réveillés. Ça a été une histoire très étrange. Parce que peut-être que la mère a cru. Non, je crois que vous y croyez à l'époque.
Oui, on y croyait, mais...
Mais je tenais compte des Jojo et de ce qu'ils disaient. Et je savais que même si les Jojo étaient animés par l'esprit d'Antonin et Clément, il fallait que je fasse attention à la parole des Jojo. Parce que les Jojo disaient des choses souvent plus bouleversantes. C'est drôle, un matin, je me souviens, Clément, et c'est très étrange, parce que je me souviens quand les Jojo avaient des papas, au début, tout au début. Mmh. Vous étiez des papas. Et un jour, en moto, il y avait les Jojo, enfin les deux papas, et les deux Jojo, ils étaient en moto, ils parlaient d'une moto à l'autre, et c'est, j'entendais... Et c'est là que les Jojo, enfin que les papas ont dit aux Jojo qu'ils étaient des papas adoptifs. Ça m'a bouleversée quand j'ai entendu ça. Et tout à l'heure, j'ai dit à Clément, par exemple, bon, comment on s'installe, on aurait pu sortir les... J'ai dit, est-ce qu'il y a des photos des Jojo? Il me dit, oui, certainement, je vais regarder. Puis il me dit, mais on les a, les Jojo. Et je lui dis, ah non, je voudrais pas qu'ils assistent.
Oui. Oui, et puis, bon, ce qui est amusant, c'est vrai que mon frère, qui est très différent de moi, et physiquement et psychologiquement, on a souvent été ressentis, ma mère le dit parfois, et beaucoup de gens le disent parfois, comme des jumeaux. Ce qui n'est pas du tout le cas. Il est très grand, physiquement, on est très différents. Mais, et d'ailleurs, on n'a pas du tout les mêmes réactions, le même caractère ou quoi que ce soit. Et ça vient de là, parce qu'on était vraiment... déjà, eux sont jumeaux, physiquement, et c'était une symbiose totale.
Elle était pitoyable. Si je la secouais, et je la secouais, j'entendais ses yeux qui brinque-ballaient dans sa tête avec un bruit d'enfer. J'ai essayé de les rattraper avec une petite cuillère, mais ce faisant, j'ai abîmé un angle de son orbite. Je l'ai rejeté dans la boîte.
Je me souviens.
Oui, je me souviens difficilement, moi. C'est-à-dire, c'est progressivement, c'est vrai qu'ils ont commencé à devenir de l'histoire. Enfin, ils sont pas de l'histoire, mais on s'en sert plus. Mais je pense vraiment que ça a aussi un rapport avec nos voix. quand on a senti qu'on pouvait plus faire ça naturellement, ça s'est arrêté. Et puis aussi peut-être par le déménagement, parce qu'ils étaient aussi très très liés avec l'environnement qu'on avait là-bas. Et c'est vrai que peut-être aussi c'est vrai que c'était une double intensité, parce que on vivait notre vie et puis on faisait vivre la vie des Jojo. Et c'est vrai que tous les soirs on finissait la journée c'était les Jojo qui finissaient la journée. Et c'était les Jojo qui se réveillaient en premier aussi, oui, c'est vrai. C'est-à-dire, oui, moi je me réveillais, mais je ne parlais pas avant un
tu
certain temps.
Tu parlais Jojo.
Voilà.
Parce qu'on disait, tiens, il parle Jojo. C'était devenu un langage, parler Jojo. Et l'autre jour, Antonin a essayé d'imiter Jojo. Je lui ai dit, il faudrait que tu parles sur Jojo. Et il y avait un peu, je me suis souvenue... un peu de cette voix qui était incroyable et que je regrette tellement de ne pas avoir enregistrée, parce que c'était vraiment une langue. Et puis, il a retrouvé un peu du Jojo, et puis, tout d'un coup, il s'est mis à rire, parce qu'il m'a dit non, je ne peux plus parler Jojo.
Oui, non, ce n'est pas possible.
C'était des voix d'enfant.
Rauque.
Rauque. Une voix de gorge incroyable. J'ai jamais entendu parler quelqu'un comme ça.
Quelques jours après, toutes mes poupées étaient assassinées. Le tueur les avait réunies en un bouquet. Et d'un seul coup de hache, il les avait décapités. Salut aux mânes de la grande poupée, avait-il écrit sur une feuille arrachée d'un cahier.
Qui est une chère amie et qui travaille ici au musée, qui s'occupe de la boutique, elle nous racontait, elle est pourtant collectionneuse aujourd'hui, mais elle nous a raconté qu'elle avait reçu un baigneur en celluloïde qu'elle n'aimait pas et dont le jeu a été pendant des années, jusqu'à sa destruction complète, de lui passer dessus avec une brouette. Et à chaque fois qu'elle prenait sa brouette, il fallait qu'elle aille chercher sa poupée, la mettre par terre et lui passer dessus. Elle a tué pendant toute son enfance sa poupée 3 fois par jour. Et elle en est ravie d'ailleurs. Elle dit, elle est pourtant collectionneuse de baigneurs en celluloïde aujourd'hui. Elle dit, le seul que je ne voudrais pas avoir, c'est le modèle, parce que je me rappelle très bien, le modèle de ce bébé-là qui avait l'air bête. C'était une tête à claque et je n'en voulais pas. Donc je l'ai toujours... tué avec ma brouette, et puis tant qu'il a été complètement pété.
Le baigneur en celluloïde suscite des violences et des haines.